Vincent Cuvelier, Abdel de Boussel, bonjour, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie ce 15 novembre de l'Abbé Pierre, Une vie pour les autres, paru aux éditions Casterman. Une petite question d'abord, avec un peu de retard, bon anniversaire Abdel. Demi-siècle, ça va, vous tenez bon ?
Ouais, ça va, c'est bien.
on est parti pour le deuxième demi.
Ah bah oui, quand même, tant qu'à faire. Comment Émile s'est-il retrouvé impliqué dans le conflit israélo-palestinien ? Ou alors, de façon moins sibylline, comment vous, Vincent, vous avez rencontré Abdel et surtout, comment vous êtes retrouvé dans cet album commun consacré au fondateur d'Emmaüs ?
Alors, nous avons reçu une commande de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre, je pense, voulait remettre au goût du jour pour les jeunes générations et rafraîchir un peu la mémoire des plus anciens sur l'Abbé Pierre, qui est décédé... Vous voyez combien de temps ?
2007.
Une quinzaine d'années, non ? Et bon, forcément, voilà, il est moins présent pour les gens plus jeunes. Donc je pense qu'eux, ils avaient en tête de faire une campagne un peu pour rafraîchir les idées des gens, parce qu'ils vivent aussi sur la figure de l'abbé Pierre, puis aussi sur les dons, sur tout ça. Donc ils ont initié plusieurs projets. Ils se sont rapprochés de Casterman, et Casterman s'est rapproché de moi. D'abord, commencer comme ça, parce que je pense que ils avaient vu que je pouvais parler de sujets simplement sans être trop respectueux et sans être irrespectueux. Donc il y avait un bon équilibre, c'est-à-dire moi je suis capable de parler de religion. Dans le bon équilibre, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. J'avais fait une bande dessinée chez Casterman il y a 5 ou 6 ans avec Max de Radigues qui s'appelait La cire moderne, qui parlait déjà de la foi. Et donc je pense qu'après cette expérience, c'était dit tiens, voilà, je pense qu'on n'est pas si nombreux dans les scénaristes ou les écrivains jeunesse. À pouvoir aborder ce sujet-là sans être ni trop ni pas assez, vous voyez.
Et Abdel, comment vous l'avez accroché et,
Ben, en fait, ça s'est fait de manière séparée, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai été approché par Nathalie Van Kampenhout, avec qui j'avais travaillé sur le conflit israélo-palestinien, qui a soufflé mon nom à l'éditeur du projet, Gaëtan Accuse. Parce qu'ils étaient en recherche d'un auteur qui pourrait, là aussi je rejoins Vincent, parler simplement au niveau graphique, pouvoir s'adapter au sujet, quoi, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai été approché.
Parlez-nous un petit peu du processus de recherche et de documentation pour être aussi précis de façon historique. Est-ce que ce fut long comme élaboration ?
Non, pas vraiment. Après, c'est un personnage que je maîtrisais un tout petit peu, entre guillemets, que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, notamment l'histoire française du XXe. J'ai déjà fait pas mal de biographies historiques. J'ai même eu une collection, j'étais directeur de collection d'une collection de biographies historiques chez Actes Sud il y a une quinzaine d'années. Donc la méthode, je l'avais. C'est un personnage qui m'était familier. J'avais déjà lu des trucs. J'avais déjà rencontré des gens qui l'ont connu. Alors moi, je me suis beaucoup inspiré d'un film que j'ai vu il y a quelques années, Les Chiffonniers d'Emmaüs, qui est un film des années 50. Je me suis aussi inspiré de la BD de Jean-Luc Fromental et Stanislas et José Luboquet, ce qui s'appelle Les Aventures d'Hergé. Je me suis servi de ça pour le découpage, pour la manière de découper mon récit. Après, j'ai aussi rencontré des gens qui l'ont connu. Et après, tout simplement, moi, je me suis servi une micro-anecdote. Je m'en sers. Moi, ça me suffit, en fait. Si on me dit, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me dit, bah, l'abbé Pierre, quand il venait à Emmaüs, eh ben, il venait, puisqu'il aimait bien, c'est que... il adorait les enfants, donc il aimait bien prendre un bébé dans ses bras. Et puis des fois, il aimait bien, il se mettait souvent à côté, auprès d'une cheminée. Puis, mais il mangeait avec nous, sur la table en formica. Il aimait bien quand c'était très simple. Et puis, quand il y avait des enfants, il les prenait sur ses genoux. Et puis, pour moi, ça me suffit, ce genre d'anecdote. Mmh. En fait, ça me suffit à installer un personnage. J'ai aussi rencontré un vieux prêtre dans les années 90 qui a connu l'abbé Pierre dans les années 40. Donc il m'en a...
Il
a
quand il était résistant.
Avant. Ouais, quand il était prisonnier, plutôt. Et donc il m'a raconté comment il a vu l'abbé Pierre faire une messe de minuit pendant la guerre. Et déjà, il engueulait tout le monde. Et déjà, il secouait tout le monde. Et déjà, il disait à tout le monde de ne pas se décourager. Et qu'il fallait se battre. Et que... Donc moi, ça me suffit comme anecdote, en fait. Après, je lis 2-3 bouquins, et puis voilà.
Alors, le film de Frédéric Tellier, donc l'abbé Pierre, Une vie de combat, vient de sortir. Frédéric explique qu'il s'est établi sur une ligne du temps. Est-ce que, de votre côté aussi, vous avez établi cette ligne du temps avec des moments? Parce que c'est vrai qu'il y a une vie tellement riche qu'il a fallu, je suppose, faire des choix.
Alors, l'abbé Pierre, c'est comme d'autres personnages, des personnages connus. Il y a des trucs qu'on ne peut pas passer à côté. C'est comme quand on joue un opéra, il y a des morceaux... voilà, tu peux pas jouer Carmen sans faire Toréador ou Julien Clerc, il peut pas faire un concert sans chanter Femme, je vous aime ou chercher un autre titre de chanson que j'ai oublié, ou ce n'est rien. et là, c'est pareil. Il y a l'abbé Pierre, il y a des passages obligés, comme dans la vie de De Gaulle, comme dans la vie de Churchill. Voilà, il y a des passages obligés. Donc il y a le discours de l'hiver 54, ouais. C'est obligé. Mais il y en a des moins connus qui sont obligés, qui sont effectivement... quand il voyait son père à l'église, à Lyon, qui lavait les pieds des pauvres.
Mmh. Ça l'a marqué.
C'est forcément...
C'est vrai que c'est une séquence aussi qui est assez marquante. Hein. Dès le votre dessin est là...
En fait, le truc, c'est que moi, lorsque j'arrive sur le projet, Vincent a déjà écrit le scénario. Mmh. Donc moi, déjà, c'est un véritable plaisir de découvrir l'histoire, parce qu'elle est là, quoi. Elle est posée, c'est pas... Il y a différentes manières de bosser sur une BD. Quand j'arrive et que je travaille avec un scénariste et qu'on travaille ensemble sur la construction et que l'album se fait au fur et à mesure, on n'est pas dans le même rapport que quand moi j'arrive, je suis le premier lecteur, en fait. J'arrive, enfin, après les éditeurs, après les gens qui ont validé, mais quelque part, j'aborde le travail que Vincent écrit comme un lecteur, et donc ça me sert de base auto-pédagogique, et moi je découvre le personnage de l'abbé Pierre que je ne connaissais pas bien, en dehors évidemment de la figure qu'on connaît tous, qu'on a vu dans les médias, qu'on connaît à partir des années 80 plus, parce que c'était ma génération, et de son engagement évidemment, mais là et c'est là où d'ailleurs j'ai été complètement pris dans le projet de dans le scénario de Vincent, c'est qu'en fait, moi, je découvre l'abbé Pierre tout d'abord enfant. Donc, quelque part, on se rend compte que ce monsieur que moi, j'ai connu avec son béret, sa longue barbe blanche, ses lunettes avec sa canne voûtée, ça a été un bébé, ça a été un enfant. Et du coup, en fait, quand je me retrouve avec ces anecdotes-là, pour moi, c'est aussi... toute une matière dans laquelle je vais pouvoir
vous exprimer,
me promener, m'exprimer, découvrir, nourrir aussi. Voilà, donc effectivement, toutes ces anecdotes rendent l'abbé Pierre humain, quoi, et c'est ça qui était vraiment intéressant.
Mais après, justement, moi, je me suis... Donc il y a ces passages obligés, mais il y a aussi des choix que j'ai faits. C'est-à-dire, quand je choisis de montrer un acte qu'il a fait à la Résistance, c'est-à-dire, j'en choisis pas d'autres. Je sélectionne, parce qu'il a fait plein de trucs pendant la Résistance. C'était l'aumônier des combattants du Vercors, il a fait passer des Juifs la frontière. Moi, j'ai choisi un truc un peu, pas spectaculaire, mais un peu marrant aussi, où il a aidé le frère du général de Gaulle, qui était menacé par les Allemands, parce que les Allemands menaçaient toute la famille du général de Gaulle. C'est pour ça que la nièce Geneviève de Gaulle-Antonieuse s'est retrouvée... concentration. Mmh. Et donc, il se trouve qu'il était handicapé, qu'il avait la polio, je pense. Et donc, moi, j'ai choisi cet épisode-là. Et les choix que j'ai faits de montrer les passages... Alors, il y a des passages obligés. Le passage avec Georges qui saute d'un pont, le premier compagnon, c'est un passage obligé. C'est vraiment le point...
Coluche, c'était un...
Mais il y en a, c'est moi qui choisis, quoi. Et alors, moi, ce que j'ai choisi toujours, c'est de me mettre toujours à hauteur de personnage. C'est-à-dire, j'ai jamais voulu faire le gros truc plein de symboles, plein de discours, plein de trucs. Il y a très peu de dialogue. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de notes explicatives. C'est très, on est dans l'action, très basique, très matériel, très, on voit l'abbé Pierre qui va chercher des sous dans les magasins, qui fait la quête dans la rue, qui, il rentre le soir, il n'y a plus rien à manger, il faut trouver vite une idée, sinon ils ne vont pas tenir une semaine de plus. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il avait une grande idée, mais en même temps, c'est aussi les événements qui ont créé cette grande idée, c'est-à-dire c'est aussi la difficulté qu'il a eu à monter Emmaüs qui a fait que c'est devenu Emmaüs, c'est-à-dire c'est la difficulté matérielle. Mais le truc bête, hein, le truc, ils n'avaient pas de chauffage pour se chauffer, il a fallu qu'ils trouvent vite de l'argent. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah écoute, il y a un jeu à la radio, c'est le qui tout double ou je sais plus quoi, la tête ou les jambes, Zappy Max, et puis il y va, et puis il gagne, et puis...
Il a de l'argent quand il rentre.
Et il a de l'argent quand il rentre, alors qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Il y a une dame à Liège qui lui donne des lingots d'or. Qu'est-ce qu'il va faire de ces lingots d'or? C'est génial, ça va faire 300 repas. Ah ben non, attends, on va louer la salle. Il y a Chantal Goya qui fait relâche. Et moi, après, mon boulot, c'est de mettre des trucs marrants. C'est de mettre un gamin qui va à Bercy et qui croit que c'est Chantal Goya. Et en fait, il voit l'abbé Pierre. Ouais. Ça, c'est mon boulot, c'est, après, pour rendre le truc bien. Vivant.
Ah oui, tout à fait.
Et drôle, quoi.
Il est quand même présenté, indépendamment de la préface de Black M, comme un super-héros. Et là, je me tourne vers le dessinateur. Comment représente-t-on un super-héros au quotidien? Et sans compter aussi, c'est qu'en fait, il n'était pas très grand, donc à 1m68, et il est quand même dans une foule, mais il faut quand même qu'il ressorte.
Moi, en fait, je ne l'ai pas ressenti comme un super-héros, en tout cas dans ma manière de l'aborder, justement. Ce que dit... En fait, moi, en fait, j'ai essayé justement de représenter un homme, en fait, simplement un être humain qui se débat et qui a pour seule arme sa détermination, son humanité, sa foi en l'autre, sa foi en Dieu, sa spiritualité. Et donc, en fait, moi, je l'ai plus représenté comme ça. Après, pour le faire ressortir, c'est-à-dire ça, c'est au niveau du fond, pour le faire ressortir au niveau de la forme, là, c'est évidemment un travail de dessinateur. Travail de dessinateur, c'est au niveau de la composition, au niveau du choix des couleurs, au niveau du trait. Mais effectivement, ce qui était important, c'est qu'il soit là, il soit identifiable, qu'on le suive, que ça reste toujours fluide, que la lecture coule. Ça, c'était très, très, très important. Après, ce qui fait tout, c'est les situations, comme tu disais. C'est les situations qui sont écrites, qui sont développées. Ce sont les personnages. Moi, c'est un matériau qui me permet de pouvoir jouer avec ça aussi.
Voilà. Et puis, vous parlez comment on faisait pour le reconnaître dans une... Mais tout simplement parce que si c'était un... C'était un exalté, c'était pas un type comme un autre, en fait. Il faut bien... Non, mais il faut bien comprendre ça. Il est un peu monstrueux dans son genre. Il y a des personnages.
C'est vrai qu'il y a certains aspects de lui qu'on ignore quand même un petit peu. Il est quand même d'une multifacette assez belliqueux, avec quand même certains échecs aussi, et des erreurs qu'il reconnaît, mais qui sont quand même.
Oui, c'était un type très humain, et c'est ça qui est bien. Et, mais après, on peut pas le détacher non plus de l'aspect religieux, et il y a un truc qui est emblématique, c'est que quand il a choisi son métier, du coup, mais sa vocation, il a choisi l'ordre des Capucins, qui est l'ordre le plus dur, le plus strict, le plus...
exigeant.
Le plus exigeant à tenir. C'est vraiment, il n'a pas choisi un truc un peu missionnaire, où on va voir des gens... Il a choisi vraiment le truc le plus dur... Donc il ne faut pas oublier que l'abbé Pierre, c'est un mystique. C'est vraiment c'est un exalté. Et gamin, c'est quelqu'un qui voulait tout le temps mourir, qui priait Dieu tous les soirs pour que Dieu le rappelle à lui, qui voulait mourir parce que il n'y a que ça qui lui paraissait suffisamment fort et suffisamment grand pour lui, quoi. C'est quelqu'un qui... C'est un exalté, vraiment. C'est un aspect... Et le film que j'aime bien des années 50, c'est marrant parce que le gars qui joue, il a cette espèce de truc un peu barré. Moi, j'ai connu des gens, des mystiques, j'en ai connu quelques-uns. Et effectivement, ils ont un petit grain. Ils ont un truc vraiment plus fort que tout. Je pense qu'il y a des hommes politiques qui ont ça, il y a des religieux, il y a des artistes. Et lui, il avait ce truc-là. Il était... Ah ouais, c'était un mystique et il avait des aspects révolutionnaires aussi. C'est-à-dire, c'était un inspirateur. C'était pas forcément un organisateur, mais c'était un inspirateur.
Comme vous dites tout à l'heure, l'album était réalisé en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre. Quel est l'apport de la Fondation? Est-ce qu'ils vous ont donné carte blanche ou au contraire certaines directives à respecter?
Alors en fait, avant de commencer la bande dessinée, j'ai eu plusieurs réunions avec eux, notamment avec le président de la Fondation Abbé Pierre, Laurent Demar, qui lui a très bien connu l'Abbé Pierre. Et en gros, on a confronté nos visions, quoi. En tout cas, moi, j'ai dit ce que je voulais faire. On a discuté aussi des points qui pouvaient poser problème. Donc on a dit ça oui, ça non, ça pas de problème, ça... Et moi, après, à moi de savoir si ça m'allait ou pas. Et moi, ça m'allait. Bon, après, je dis pas que c'était simple de travailler avec un organisme
une institution quand même aussi.
Avec une institution, c'est pas. Mais on le sait quand on accepte aussi. Après, je dis pas que c'est simple. Par contre, cet aspect humain, quotidien du personnage, ça, oui, ça, c'est ce qu'il recherchait. Il recherchait aussi qu'on en parle, évidemment avec respect, mais aussi qu'on s'amuse un peu avec le personnage, qu'on désacralise aussi certaines choses. Pas déboulonner les statues, j'ai horreur de ça, moi. Déconstruire pour déconstruire, je trouve ça idiot. Donc, parler du personnage... moi, si ça avait été juste pour démolir le personnage et trouver tous les trucs choquants, gênants, j'aurais pas fait. Hein. Mais l'inverse, j'aurais pas fait non plus. Hein. C'était pour construire un monument au personnage et dire à quel point il était formidable, imagine, j'aurais pas fait non plus. Moi, c'est vraiment l'équilibre qui me va. C'est-à-dire, on en parle comme d'un... être humain avec ses qualités et ses défauts. Mais je vous dirais même que moi, j'ai traité dans d'autres bouquins des personnages négatifs et que je les ai traités pareil. C'est-à-dire, même si on me demande de faire une biographie de Staline, si Staline a eu un truc... enfin, je sais pas... on dit des fois, ouais, mais vous humanisez les monstres. Ben ouais, mais Staline aimait les pique-niques.
Aussi,
ben ouais. Staline aimait les pique-niques. C'est-à-dire, il se mettait au bord d'une rivière avec des amis. Il aimait les pique-niques. Ça veut pas dire qu'après, il allait pas buter le mec avec qui il avait fait le pique-nique. Hein. Il le faisait sans doute. Mais en tout cas, il aimait les pique-niques. Ben ouais, ça le rend humain. Ben ouais, c'était un humain.
Adèle, au niveau de la représentation graphique, est-ce que vous avez dû soumettre un profil, enfin une image de l'abbé?
Oui. Parce qu'en fait, il y avait évidemment une exigence de leur part. Mais il a fallu qu'on trouve, il a fallu faire des concessions de part et d'autre, surtout au départ. C'est-à-dire au départ, pour essayer de trouver la direction. Dire, ok, là c'est peut-être pas assez réaliste, là c'est peut-être trop, là c'est... Puis à partir du moment où on a commencé à trouver, ça a pris un peu de temps, mais à partir du moment où on a commencé à trouver la bonne direction, le bon équilibre, là, à ce moment-là, c'était parti et le personnage a pu se développer au fur et à mesure. Parce qu'il faut savoir que quand on travaille sur une bande dessinée, le personnage, enfin, en tout cas pour moi, commence à trouver vraiment sa patte, sa texture au bout de 15-20 pages. Quoi. Pas avant, quoi, parce que ça prend du temps. Il y a d'autres écoles, mais en tout cas pour moi, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'abord de faire un modèle sheet, comme on dit, comme dans le film d'animation. Le personnage, voilà, il mesure tant, il est comme ça. Je le dessine de face, de profil, de trois quarts, et puis après, je me tiens à ça. Moi, je n'arrive pas à travailler comme ça. J'ai besoin de partir à la rencontre d'un personnage. Et ce personnage, au plus je l'approfondis...
Ça tombe bien, finalement, avec qu'on passe de l'enfance. Vous avez le temps de vous approprier le personnage, finalement.
Oui, mais alors là, par contre, il y a eu d'autres difficultés. C'est-à-dire que, justement, vu que les séquences sont plutôt courtes, par exemple, la séquence de l'enfant, de la petite enfance, il y a deux séquences au départ. La première où il est tout petit, vraiment, où il fait ses petites fleurs. La suivante où il est encore enfant avec ses frères. Et puis la troisième où il est déjà pré-ado, il a déjà une douzaine, 12 ou 13 ans. La difficulté, c'est qu'il faut quand même garder un personnage qui évolue, mais qui soit cohérent dans sa représentation. En plus, le lecteur n'a pas le temps de trop s'habituer, parce que c'est à chaque fois 2 pages, 3 pages. Et donc, du coup, jusqu'au moment où on le fait arriver à l'âge adulte, alors là, bon, il y a quand même, il y a peut-être 5-6 séquences où ça ne bouge pas trop, et puis de nouveau, il vieillit. Ce qui a été l'autre difficulté, c'est que l'abbé Pierre, quand il est vieux, on sait qui c'est, on le reconnaît. Je veux dire, il a vraiment une silhouette, donc on le reconnaît graphiquement. Il a son béret, sa barbe blanche, ses grosses lunettes. Mais quand il est plus jeune, il n'est pas du tout comme ça. Donc il faut aussi, en se basant sur des photos, arriver à créer une cohérence avec la manière dont je vais le représenter, et en même temps faire qu'il reste attachant, qu'il reste vivant. Voilà, il y a toutes des problématiques comme ça à résoudre.
Le béret, il était unique ou il en a eu plusieurs?
Alors ça, je ne sais rien.
J'imagine qu'il en a eu plusieurs.
Oui, mais est-ce que c'est la même marque ou...
Je ne sais pas du tout. Mais c'est comme James Bond, il a toujours le martini. c'est un costume aussi qu'il a gardé de sa période de moine et surtout de sa période de résistant. Et quand il était député après-guerre, il était déjà connu, c'était déjà un personnage. On parlait déjà du curé. Il n'est pas devenu célèbre en faisant l'appel de l'hiver 54. C'était déjà une figure.
Vincent Abel, un grand merci. Donc on rappelle l'abbé Pierre, Une vie pour les autres, qui vient de sortir aux éditions Castelmans. Merci à vous.
Merci.